Le journal, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. C'est sans doute la fin d'une histoire d'amour, celle de Neymar avec Paris. L'attaquant brésilien n'a pas joué hier soir, mais il a été largement conspué par les supporters du PSG. Neymar qui veut partir, cela n'a pas empêché le club champion en titre de l'emporter face à Nîmes. Garde à Rennes, Roquefort. Vous vous en souvenez, les moustaches de José Bové faisaient leur apparition sur la scène médiatique. Le démontage du McDo de Millau par les éleveurs du Larzac, c'était il y a 20 ans, reportage dans ce journal au fameux fast-food. Chutes, fractures et contusions, ils sont de plus en plus nombreux, les piétons victimes d'un choc avec une trottinette électrique. Ils demandent une réglementation plus sévère en ville. Europe, écologie, les Verts, combien de divisions à un mois de la rentrée politique en cette année d'élection municipale? Vous recevez le porte-parole de LV, Pierre Veille.
Oui, Julien Bayou, porte-parole d'Europe, écologie, les Verts. Quelle stratégie pour les Verts, pour les écologistes après leur très bon score aux élections européennes? 13,5%. Vos questions pour Julien Bayou dès maintenant au standard 01 45 24 7000.
Pas de trêve en Italie où une motion de censure contre le gouvernement de Giuseppe Conte est soumise au vote aujourd'hui. Et puis Leonardo DiCaprio et Brad Pitt chez Tarantino, ça donne un film brillant malgré quelques réserves, nous dira Eva Béton.
France Inter.
Les stars du match d'hier soir s'appellent Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Angel Di Maria, les auteurs des trois buts du PSG face à Nîmes. Un début en fanfare en Ligue 1, donc pour le tenant du titre. Pourtant, une absence et des cris ont un peu troublé la fête. Neymar ne jouait pas d'hier soir. Le Brésilien, acheté 222 millions d'euros il y a 2 ans, ne cache pas son envie de partir. Et les ultras du club ont déjà tourné la page. Bruno Salomon.
Neymar a bien fait de ne pas venir au Parc des Prince hier soir, de laisser sa loge vide. Mais même absent, le Brésilien a quand même dû avoir les oreilles qui ont sifflé lorsque les ultras parisiens ont commencé à chanter ceci. On ne va pas faire la traduction, le message est assez explicite. Ensuite, il y a eu 2 banderoles tendues. La plus soft demande aux Brésiliens de se casser du PSG. Elodie est une fan parisienne abonnée en virage depuis quelques années.
Il faut que ça s'arrête, il met une mauvaise ambiance. C'est pas bon pour le PSG, il veut s'en aller et il faut pas qu'il reste.
Une bonne partie des fans ne veulent plus donc du Brésilien au PSG. Du côté de ses coéquipiers, la situation est quand même assez différente. La plupart, comme le défenseur Abdou Diallo, souhaitent que le crack brésilien reste.
Et avec nous pour l'instant, on est très contents, parce que c'est un top joueur, et puis on verra par la suite. Mais
Vous pouvez dire que c'est Barça, ce sera une perte.
Forcément, un joueur de ce niveau, c'est une perte.
Côté dirigeant parisien, hier soir, pas de commentaires sur les positions très tranchées des ultra-parisiens contre Neymar. Le club continue de négocier le départ de la star brésilienne qui doit quand même apprécier de voir que la possibilité de rester au PSG va devenir de plus en plus compliquée, voire impossible.
Un reportage de Bruno Salomon et puis le feuilleton Neymar continue. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont sur les rangs.
Corinne, c'est devenu le symbole de la lutte contre la malbouffe et le libéralisme effréné. Le démontage du restaurant McDo de Millau en Aveyron par quelques centaines d'éleveurs de brebis, dont un certain José Bové.
Oui, c'était le 12 août 1999, il y a 20 ans, au cri de Garde à Rennes Roquefort. Ils avaient tagué les vitres et le toit, enlevé le carrelage. Ils dénonçaient la décision américaine de surtaxer le Roquefort parce que la France ne voulait pas importer de bœuf aux hormones. Ce matin, la Confédération paysanne organise un pique-nique au bord du Tarn pour commémorer l'événement à 200 mètres du fameux McDo qui, lui, ne désemplit pas. Le reportage de Bénédicte Dupont.
Quand on demande aux clients s'ils connaissent l'histoire de ce McDo, les réponses divergent.
Ah non, pas du tout.
Ah non, je savais pas.
L'histoire a fait grand bruit.
C'était un des premiers McDo, je crois, qui a été dégradé.
Ouais, maintenant, on connaît les méfaits des malbouffes, ça c'est sûr.
Oui, aujourd'hui, tout le monde connaît ces méfaits, mais qui sait encore que le combat contre la malbouffe a commencé avec le démontage du McDo de Millau. Un combat qui semble perdu quand on voit la longue queue aux bornes automatiques. Et pourtant, il ne faut pas croire, beaucoup ne sont pas fans des Big Mac.
C'est juste parce que c'est rapide, sinon je préfère manger dans un bon restaurant que venir au McDo.
Ça reste la simplicité, voilà.
C'est qu'on voulait faire plaisir aux enfants, on peut faire des jeux, mais c'est vrai qu'au niveau alimentaire, c'est pas le summum.
Vous avez pris un McDo, c'est la première école. On allait manger vite au McDo et mal. Au moins en 20 minutes, on a fini de manger,
et
voilà.
Et même Christian Roquerol, un éleveur qui avait tagué le toit à l'époque, reconnaît y être allé récemment.
L'autre jour, mon neveu fêtait un anniversaire avec un copain, il m'a demandé de l'amener chez McDo pour acheter des hamburgers. Écoute, je t'emmène parce que t'as le droit de faire ce que tu veux, mais j'ai expliqué pourquoi moi j'étais pas trop chaud pour ça. J'ai dit, mais je te laisse, je vais pas jusqu'au drive, tu y vas à pied. Donc il a été chercher ses hamburgers et moi je m'étais planqué pour pas qu'on me voie trop.
Et il ajoute, on n'a jamais été dans l'absolutisme anti-McDo, mais cette action nous a permis de dénoncer le libre-échange, alors on ne regrette pas.
Reportage de Bénédicte Dupont de France Bleu Occitanie. Et puis récit complet de cette aventure du démontage du McDo, c'est à retrouver sur notre site franceinter.fr. Il se dit victime d'un acharnement judiciaire. Antonin Bernanos, figure du mouvement antifasciste, est en détention depuis le mois d'avril, condamné à 3 ans de prison ferme pour l'attaque d'une voiture de police quai de Valmy en 2016. L'étudiant en sociologie, arrière-petit-fils de l'écrivain Georges Bernanos, avait été libéré en conditionnel avant d'être à nouveau arrêté 3 jours plus tard pour son implication dans une bagarre avec des militants d'ultra-droite. Il y a 10 jours, un juge des libertés et de la détention avait décidé de le laisser sortir, mais le parquet a fait appel. Les explications de Jean-Philippe Degnaud.
Les soutiens d'Antonin Bernanos hurlent à l'acharnement judiciaire d'une justice d'exception. Le jour de son arrestation, le militant antifasciste venait de bénéficier d'une libération conditionnelle. Il avait été condamné en 2017 à 3 ans de prison pour sa participation à l'attaque d'un véhicule de police sur le quai de Valmy en marge d'une manifestation contre la loi travail. À peine libéré, à peine repris donc, Antonin Bernanos part en détention provisoire à Fresnes, isolé des autres détenus, puis à la santé sous un régime traditionnel. Les autres militants interpellés en même temps que lui sont, eux, restés libres sous contrôle judiciaire. Cette différenciation au mois d'avril et l'appel du parquet aujourd'hui contre la remise en liberté d'Antonin Bernanos trouvent une explication juridique dans le fait qu'il a réitéré un délit au cours d'une libération conditionnelle, un délit similaire à celui pour lequel il avait été condamné. Mais pour les soutiens du militant, il ne s'agit là que de mesures destinées à priver de liberté un contestataire des politiques gouvernementales.
Et audience aujourd'hui devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La décision sera rendue dans la foulée. Ça s'est passé dans un square de Menton, dans les Alpes-Maritimes, hier soir. Un jeune policier a tué un SDF avec son arme. L'homme était muni d'un couteau. Selon le syndicat Unité SGP Police, le policier aurait agi en état de légitime défense. Valentin Pat.
C'est pour protéger un de ses collègues que le jeune policier a ouvert le feu, tuant l'homme qui brandissait un couteau. C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin le syndicat Unité SGP Police. L'équipe de police secours intervient hier soir dans un square aux alentours de 20h. Alerté par des riverains, un SDF très agité tente de se suicider en s'ouvrant les veines. La police tente de le calmer, l'homme se débat, le pistolet à impulsion électrique ne suffit pas à le maîtriser. C'est alors que le forcené retourne son arme, un couteau, contre des policiers. Son collègue sort alors son arme à feu, tire et le coup est mortel. Il aurait agi en état de légitime défense. Le syndicat Unité SGP Police dit n'avoir aucun doute là-dessus. Mais ce sera à l'enquête de le déterminer. L'IGPN, la police des polices, a été saisie.
Pas de conseil des ministres cette semaine. Le gouvernement, à l'image du président, est en vacances. L'occasion de faire un petit tour d'horizon des partis politiques avant le plongeon dans la campagne des municipales à la rentrée. Ce matin, zoom sur Europe Écologie Les Verts qui se sont poussés des ailes après son bon score aux dernières élections européennes. Adrien Serrière.
On les disait moribonds il y a près d'un an. Les Verts partent à l'assaut des municipales regonflés à bloc. En 2020, EELV espère cette fois remporter des grandes villes. Paris, Rennes, Nantes, Toulouse figurent sur la liste de course idéale du nouvel homme fort Yannick Jadot. Comme lui, les élus, les militants rêvent de leadership, d'imposer l'écologie politique, mais avec quand même des degrés d'ambition divers. Il ne faudra pas se laisser griser par l'ivresse des cimes à tacler l'expérimenté Noël Mamère. Des différends persistent aussi sur le positionnement de plus en plus centriste du parti. Cela dit, au sein d'une formation historiquement minée par des conflits internes, on apprécie l'unité inédite du moment. Côté finance, Europe Écologie sort enfin la tête de l'eau après plusieurs années dans le rouge. Et pour cause, le nombre de militants a quasiment doublé en un an. Maintenant, que faire de ces nouveaux atouts? Comment construire une force politique majeure et convaincre d'autres électeurs à gauche et même à droite? Face à ces défis, on assure au sein du parti ne pas s'emballer, car tout le monde se souvient que la vague verte des européennes de 2009 avait laissé place à des jours bien plus sombres.
Et à 8h20, Julien Bayou, le porte porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, sera votre invité Pierre Veil.
L'Italie ne connaît pas de trêve politique en cette semaine du 15 août.
Oui, en cette période de Ferragosto, autour du 15 août, habituellement très calme, dans la péninsule, eh bien, le gouvernement de Giuseppe Conte est en sursis. Depuis le coup de force de son ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui demande des élections anticipées. Pour accélérer le mouvement, le chef de la Ligue espère maintenant faire adopter une motion de censure. À Rome, Marie Duhamel.
Matteo Salvini veut un vote d'ici jeudi. Il a littéralement intimé à ses élus l'ordre de ramener leurs fesses à Rome aujourd'hui pour mettre la pression sur ceux qui revient réellement de fixer le calendrier de la crise, les chefs des groupes parlementaires au Sénat. Ces derniers détermineront en fin de journée la date du vote de défiance, pas avant fin août, espère le président du Conseil. Giuseppe Conte voudrait participer au G7 de Biarritz sans avoir été précédemment désavoué. En attendant, à Rome, les tractations vont bon train. Ce matin, l'allié trahi de la coalition, les populistes du mouvement 5 étoiles vont réfléchir à l'offre inattendue que leur a faite hier le démocrate Matteo Renzi. L'ancien Premier ministre leur propose une alliance pour bloquer l'extrémisme. Un scénario auquel prêtera attention le président de la République, car si l'actuel gouvernement tombait, Sergio Mattarella poussera à la formation d'un exécutif de transition. Il ne veut pas d'élection avant que le budget 2020 ne soit bouclé. Rome, Marie Duhamel, France Inter.
Retour en France avec un objet devenu incontournable. Les trottinettes électriques causent de plus en plus d'accidents, généralement heurtant des piétons. Alors certaines mesures ont déjà été prises. À Paris comme à Marseille, les trottinettes n'ont plus le droit, en théorie, de stationner sur les trottoirs. Mais une association de victimes, qui sera reçue aujourd'hui au ministère des Transports, estime qu'il faut aller beaucoup plus loin. Yann Gallic.
Il y a 3 mois, Isabelle Albertin a été renversée par une trottinette électrique en plein centre-ville. Victime d'une double fracture au poignet, cette pianiste de l'Opéra de Paris n'a toujours pas pu reprendre le travail. Depuis cet accident, son mari, Jean-René Albertin, a fondé avec d'autres victimes une association, l'APACOVI, qui veut mettre fin à l'utilisation anarchique des trottinettes.
Nous, on n'est pas contre l'utilisation des trottinettes. On dit simplement qu'on respecte le droit de chacun, le droit des piétons de marcher en toute tranquillité et sécurité sur les trottoirs, et le droit des trottinettes et des vélos de circuler dans les zones qui sont faites pour ça.
Au mois de septembre, un décret devrait permettre d'interdire aux trottinettes électriques de circuler sur les trottoirs partout en France, ce qui est déjà le cas dans les villes comme Paris ou Marseille, mais il faut aller plus loin, selon Jean-René Albertin.
Il faut absolument des mesures coercitives. Et la deuxième chose, c'est d'obliger les loueurs de trottinettes d'assurer la régularité aussi des locations, de pouvoir retrouver celui qui crée un incident, et d'obliger ceux qui les utilisent à être eux-mêmes assurés en garantie civile, comme c'est le cas pour les loueurs de voitures, et qu'on demande un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il y ait port du casque obligatoire, immatriculation des trottinettes, et que ce ne soit pas le grand n'importe quoi.
Avec son association, Jean-René Albertin veut également déposer plainte contre la mairie de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui.
C'est un véritable arsenal militaire sous-marin qui dort au fond de la mer du Nord. Après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont immergé des millions de munitions chimiques et conventionnelles, comme par exemple le gaz moutarde. Leur usage était devenu interdit, mais est-ce vraiment sans danger? Les défenseurs de l'environnement s'interrogent et voudraient savoir ce qui dort au fond de l'eau. Reportage sur la plage de Brédune d'Emmanuel Bouin.
Laurent est militant d'Extinction Rébellion, un collectif qui s'est emparé du sujet. Régulièrement, il mène des actions sur les plages du littoral pour sensibiliser la population.
Ici, ont été stockées, juste après-guerre, des munitions. Avec l'industrie, on a fait beaucoup de munitions. On a fait notamment des gaz moutarde, des gaz chimiques. Et après la Seconde Guerre mondiale, avec les accords mondiaux, on ne pouvait plus utiliser ces armes chimiques. Et donc, on les a mis dans l'eau. Nous avons des bombes qui sont dans des fûts en métaux, donc qui sont dans l'eau salée. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le flux des marées et avec les passages des bateaux, ben, naturellement, on sait que les matériaux sont de plus en plus fragiles. Mais on sait que, par exemple, à Knokke Est, ils ont retrouvé dans l'eau des traces de l'équivalent du gaz moutarde, quoi.
Et du côté des usagers de la mer, eh bien, c'est le flou le plus total. Écoutez Stéphane Pinto, il est marin-pêcheur.
Il y a des engins, oui. Maintenant, est-ce qu'on en pêche souvent? Non. Est-ce que ça pollue? Je ne peux pas vous répondre. Si ça pollue, il y a que les scientifiques qui peuvent nous répondre. Et puis que si c'est alarmant, oui, peut-être qu'il faudra à un moment donné se poser les bonnes questions.
Ce que demande le collectif Extinction Rébellion, que le secret défense soit levé pour connaître les lieux précis où ont été immergées les munitions et ainsi prendre des mesures concrètes pour protéger ces zones.
Le reportage d'Emmanuel Bouin. Et puis c'est une affiche de rêve. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio dans un film signé Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, Il était une fois Hollywood, sortira mercredi sur les écrans français. Tarantino ressuscite une époque révolue, le Hollywood de la fin des années 60, dans un film brillant, malgré quelques réserves, nous dit Eva Bétan.
Once Upon a Time, Il était une fois, c'est ainsi que débutent les contes. Il était une fois à Hollywood, bien sûr, puisque nous sommes chez Tarantino. Tarantino a 56 ans et il n'en est toujours pas revenu qu'une merveille comme le cinéma existe, au point de se nourrir de lui plutôt que de la vie. Il était une fois 1969, les personnages de son film, un acteur sur le déclin et son factotum, DiCaprio et Brad Pitt, peinent à s'adapter aux changements qui s'annoncent. Ode au cinéma, référence, brio, gag, tendresse inattendue chez Tarantino. Bien sûr, c'est brillant, même si le scénario est ténu. Année charnière aussi, parce que ce fut une année tragique avec l'assassinat de l'actrice Sharon Tate, enceinte, par la secte Manson, Leonardo DiCaprio.
J'éprouve une nostalgie pour cette époque. Tarantino l'a choisie parce que l'Amérique allait connaître beaucoup de changements. C'était la fin de l'innocence. Mes parents hippies me racontaient l'affaire Manson. Et comment cela avait marqué la fin de tout ce qu'ils avaient connu jusque-là.
Et c'est là que le système Tarantino, tout est permis au nom du dieu Cinoche, trouve sa limite. Ce qui passait, tant que le sujet était léger, achoppe quand vient la tragédie, qui semble, et c'est gênant, n'exister que comme carburant au profit de son désir de cinéma.
Et pour être complet, à côté de Léo et Brad, il y a aussi Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate.
C'était le journal de Corinne Audouin.